France Culture. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Culture Monde, le magazine international de France Culture. Une émission préparée avec Sacha Mattei, Quentin Péchard, Fanny Richer, Barthélémy Gaillard et Loïc Antoine, réalisée par Vivian Lecuivre et à la technique. Ce matin, c'est Dalia. Comme chaque semaine, le vendredi, c'est une émission en deux parties. Un retour de Cisjordanie avec le photojournaliste Nicolas Cortès qui, depuis plusieurs années, documente l'accaparement du territoire par les colons israéliens. Et la table ronde ensuite sera consacrée à l'Iran dans le cadre d'une journée spéciale organisée par France Culture. Nous reviendrons sur l'emprise du corps des gardiens de la Révolution sur l'État et la société iranienne avec nos invités, le grand reporter au point Armin Arefi et l'historien spécialiste du Moyen-Orient, Jonathan Piron. Une discussion co-animée avec Marc Semo, notre partenaire du journal Le Monde.
France Culture, Culture Monde, Mélanie Chalandon.
Et pour commencer, place au retour de terrain. Bonjour Nicolas Cortès.
Bonjour.
Vous êtes photographe et journaliste indépendant. Vous revenez de Cisjordanie, un territoire que vous connaissez bien depuis plus de 6 ans. Vous y documentez l'accaparement des terres, mais aussi des troupeaux, des maisons, des réserves d'eau par les colons israéliens. Un phénomène qui n'est pas nouveau, mais qui s'est accéléré au lendemain des attaques du 7 octobre 2023 et qui est désormais couvert et encouragé par le gouvernement. Vos photos, publiées notamment par Le Temps, L'Écho et Blast, témoignent du climat de violence dans lequel la colonisation avance. Dans certains villages, les attaques sont quotidiennes, laissant les habitants palestiniens dans un état d'anxiété permanent. Elles disent aussi la transformation à marche forcée d'un territoire de plus en plus morcelé et clôturé. C'est le cas notamment à Massafer Yatta. Nous sommes dans le sud de la Cisjordanie, dans ce qu'on appelle la zone C. Nicolas Cortès, est-ce que vous pouvez nous rappeler ce que signifie vivre en zone C, en Cisjordanie? Qui administre ce territoire et comment?
Alors, il faut savoir que la Cisjordanie occupée est divisée en 3 zones. Il y a la zone A, la zone B et la zone C. La zone A, elle est sous contrôle total palestinien, administratif et sécuritaire. Ça représente les plus grandes villes comme Ramallah, Bethléem, Jéricho. Et ensuite, il y a la zone B qui elle, sous contrôle administratif palestinien, mais sécuritaire israélien. Ça veut dire que c'est l'armée et la police israélienne qui intervient. Et puis, il y a la zone C qui représente quand même 60%, même plus du territoire de la Cisjordanie occupée. Et qui, elle, est sous contrôle total israélien. Ça veut dire sous contrôle administratif et sécuritaire. Ça veut dire que c'est la police et l'armée israélienne qui intervient. Donc, l'armée palestinienne et la police palestinienne n'ont pas le droit d'intervenir dans ces zones. Et administratif, ça veut dire que n'importe qui, si quelqu'un veut construire une maison, si quelqu'un veut avoir accès à l'eau, à l'électricité, construire des bâtiments, écoles, n'importe quoi, ils doivent demander les autorisations au gouvernement israélien. Mais en fait, ces autorisations ne sont jamais données. Je pense que c'est à peu près 1 ou 2% de permis de construire qui sont autorisés aux familles palestiniennes en zone C pour pouvoir construire ou avoir accès à l'eau ou à l'électricité.
Le contrôle, il s'exerce aussi sur les axes de circulation et particulièrement en zone C. Les barrages et les checkpoints se sont multipliés ces 2 dernières années à Massafer Yatta. Comment circule-t-on? Comment accède-t-on même à cette zone qui regroupe une 20aine de villages?
Alors, Massafer Yatta, ça se trouve dans une zone semi-désertique. Ça se retrouve dans les collines d'Hébron, tout au sud de la Cisjordanie occupée. À la frontière de la ligne verte. Et pour y accéder, il faut passer par une route qui est soit celle des colons, donc c'est un peu plus dangereux de passer par celle-ci, ou alors de passer par... Une fois qu'on arrive en fait à l'entrée de Massafer Yatta, c'est une vallée, c'est une région qui a à peu près 19-20 villages, et une fois qu'on rentre dans la vallée de Massafer Yatta, toutes les routes sont un peu cabossées, c'est que des chemins de terre, et rien n'est rénové depuis des années pour justement compliquer le déplacement des familles palestiniennes qui sont à majorité des paysans, des agriculteurs et des bédouins, donc qui ont besoin de beaucoup circuler. Et du coup, les restrictions de mouvement aussi, elles sont faites par des barrières qui sont installées à l'entrée de chaque ville palestinienne. Ça fait ces deux blocs de béton qui sont posés à chaque côté de la route avec une barrière. Et l'armée israélienne peut fermer ces routes n'importe quand. Et ça, il y en a en Cisjordanie depuis 7 octobre 2023. Il y en a de plus en plus, ce qui complique l'accès. Et là, en 2025, il y a quelques mois, il y a une barrière qui a été installée à l'entrée de Massa Ferrietta. Donc, s'ils ferment cette route, ça veut dire que personne ne peut sortir avec des véhicules de Massa Ferrietta, quoi.
Un quotidien qui se retrouve entravé dans les déplacements, et en particulier pour les déplacements d'urgence, je pense aux véhicules médicaux, aux ambulances qui ont besoin évidemment de circuler rapidement, et c'est le cas à Massa Ferrietta, et vous documentez plusieurs cas de personnes blessées qui ont dû attendre plusieurs heures l'arrivée d'une ambulance, notamment dans le village de Al-Rakiz. C'est un jour du printemps 2025, une jeep débarque sur la propriété de Saïd Al-Omour, c'est un fermier de 60 ans. Des colons munis de piquets de clôture tentent d'y installer une barrière. L'homme s'y oppose avec son fils, il se fait tirer dans la jambe, mais l'ambulance reste bloquée. Des événements comme celui-ci, ils sont loin d'être exceptionnels.
Ben, ils sont loin d'être exceptionnels et surtout ils deviennent de plus en plus fréquents. Ça devient comme il y a une promiscuité de plus en plus proche entre les colons, puisqu'il y a de plus en plus d'avant-postes, qui sont des colonies illégales aux yeux du droit international et du droit israélien, qui se construisent dans Massa Ferrietta, ça veut dire qu'il y a de plus en plus de colons, donc de plus en plus d'attaques. Et du coup, comme il y a de plus en plus d'attaques, ouais, c'est hyper compliqué pour voir parfois... impossible pour les équipes de soins palestiniens, le Croissant Rouge, d'avoir accès quand il y a une attaque ou quelque chose comme ça, parce que déjà ils doivent avoir l'accord des autorités israéliennes pour accéder au lieu quand ça se trouve en zone C. Donc souvent elles arrivent en retard. Il y a eu le cas de Saïd qui s'est fait tirer dans la jambe. Et en fait, le problème, c'est que le temps que les ambulances arrivent, du coup, il a été pris par une ambulance israélienne, donc amené dans un hôpital israélien. Mais ça a mis trop de temps. Dans le temps qu'il arrive à l'hôpital, ils ont dû l'amputer. Et en plus, derrière d'être amputé, son fils a été arrêté et lui a été arrêté aussi. Et il y a le cas aussi de Zakaria, qui a été un tournant un peu à Massa Ferrietta, qui s'est fait tirer dessus par un colon. Et qui était protégé par l'armée israélienne. Le colon est descendu de la colonie Avat Maon, qui touche le village d'Atouani, qui est le plus gros village dans Massa Ferrietta, qui a tiré à bout portant dans le ventre de Zakaria, qui est un jeune papa qui avait moins de 30 ans à ce moment-là. Et avec une balle doum-doum, du coup, c'est une balle qui explose dans l'estomac. Et du coup, il n'y a pas d'ambulance qui a pu venir, qui a eu accès sur le lieu de tir. Et c'est la famille de Zakaria qui ont dû le mettre dans une voiture eux-mêmes. Et du coup, la voiture a été bloquée par un checkpoint israélien. Et le temps qu'ils arrivent à l'hôpital de Yatta, qui est la ville la plus proche qui se trouve en zone A, Zakaria s'est vidé de son sang. Tout le monde se demande comment il a survécu. Mais depuis quand même, en 2 ans, il a eu plus de 14 opérations. Et du coup, c'est pour montrer que pour avoir accès aux soins là-bas, c'est hyper compliqué pour les Palestiniens. Et souvent, c'est trop tard quand ils arrivent à l'hôpital.
Vous réalisez un portrait de Zakaria Al-Adra. Je prends le temps de détailler ces photos car c'est le cœur de votre travail, Nicolas Cortès. Un portrait en grand plan dans lequel il soulève son t-shirt et vous montre cette blessure à l'abdomen que vous venez de nous raconter face à ces attaques qui visent parfois donc directement les personnes. Quels sont les recours judiciaires, sécuritaires pour les habitants ?
Pour le cas de Zakaria, par exemple, il y a une partie de ces soins qui sont pris en charge par les autorités palestiniennes. Mais sinon, pour l'achat de certains médicaments, tout ça, ou de certaines opérations, si ça se passe dans un lieu privé, c'est à la charge de la famille. Par exemple, la famille de Zakaria, ils ont dû vendre pas mal de moutons pour pouvoir payer les soins à Zakaria, qui sur 2 ans reviennent assez cher.
Je parlais aussi des recours judiciaires, c'est-à-dire face à des attaques comme celle-ci. À quel moment et est-ce que la responsabilité des auteurs est faite et mise en cause ?
Pour Zakaria, par exemple, je crois que le colon qui lui a tiré dessus, il a été écarté. Il n'avait plus le droit d'approcher la colonie pendant 6 mois, mais il est revenu directement, enfin, près de la colonie. C'est comme pour Aouda qui a été assassinée dans le village de Oumarer, qui est juste à côté dans la région de Massa Ferriata. C'est un colon qui avait tiré à bout portant sur Aouda et qui a été assassiné, qui est mort sur le coup. Par exemple, ce colon qui est assez connu là-bas, et qui c'est un des colons les plus violents, lui, le lendemain, était sur les lieux du crime, là où Aouda avait été assassiné. Il a pu revenir sans être jugé, ni quoi que ce soit. La plupart des colons ne sont jamais jugés. Jamais. Il lui arrive rien.
Je ne sais pas si c'est la même personne, mais il y a une de vos photos où on voit justement un colon qui est connu et redouté pour ses attaques, Chem Toflouski. Vous le photographiez, appuyé contre son pick-up. Il est entouré de membres de forces de sécurité. Et c'est important de parler de ce lien entre les colons et les forces de sécurité. Comment ce lien a-t-il changé depuis 2 ans?
Oui, ça c'est une photo très importante en fait, parce que elle montre directement. Nous on le voit à chaque attaque de colons, de la complicité entre l'armée israélienne et la police israélienne, du coup des autorités israéliennes, avec les colons, ou qui sont sur chaque attaque, ils sont protégés. En fait, on peut voir la complicité. C'est pour ça que j'ai pris cette photo où on voit. Je sais pas sur la photo exactement si on les voit rire ensemble, mais. Sur la série, en tout cas, on les voit rire ensemble, ils se prennent dans les bras, ils prennent des nouvelles, ils se serrent la main, ils se marrent comme si... Enfin, c'est un peu comme un jeu pour eux, et du coup, on voit vraiment la complicité et le soutien de l'armée israélienne avec les colons. C'est pour ça aussi, il y a un truc qui est hyper important, c'est que quand il y a des attaques de colons, les Palestiniens appellent en premier la police israélienne pour se protéger, en fait. Pour pas que, si les colons le font, en fait, c'est eux qui vont témoigner les premiers, du coup, ça va tomber contre les Palestiniens. Donc, chaque fois qu'il y a une attaque de colons, le premier truc que font les Palestiniens, bon, c'est documenter, évidemment, mais c'est appeler la police israélienne pour se protéger.
Sauf que les colons, ce que vous racontez, c'est qu'ils portent de plus en plus des tenues militaires, ce qui fait qu'on les confond parfois avec l'armée. Comment se fait-il qu'ils soient autorisés à porter des tenues militaires, et non seulement des tenues, mais aussi des armes?
Alors ça, c'est quelque chose que j'avais pas vu en 2019, par exemple, quand j'étais arrivé pour la première fois à Massa Ferriata. Mais c'est quelque chose qui a changé depuis le 7 octobre 2023, à cause des ministres d'extrême droite, comme Ben Gvir et Smotrich, qui ont facilité l'accès aux armes et aux permis. Et depuis le 7 octobre 2023, du coup, en fait, comme il y a beaucoup de réservistes qui sont partis à Gaza ou à la frontière du Liban, ben c'est les colons eux-mêmes qui font la sécurité autour des colonies. Et ce qui est compliqué maintenant, c'est que quand on voit une voiture arriver, on voit des gens qui sont habillés en tenue militaire avec des fusils d'assaut, mais on sait jamais si c'est des militaires ou si c'est des colons, parce qu'ils ont, c'est pour certains, ils ont exactement la même tenue. Donc ça, c'est quelque chose qui a changé depuis 7 octobre 2023.
Vous disiez tout à l'heure que les Palestiniens, en cas d'attaque, appellent la police. Est-ce qu'il arrive que cette police leur offre protection et fasse se mettre en travers des colons et des Palestiniens, empêche les échauffourées? Enfin, voilà. Est-ce qu'ils obtiennent protection et gain de cause auprès de cette police?
Non, non. La plupart, c'est des dépôts de plaintes qui amènent nulle part. Pour la protection, pas du tout, puisque souvent, quand il y a beaucoup d'images qui circulent sur les réseaux sociaux, qui sont documentés par les familles palestiniennes eux-mêmes à Massa Ferriata. Et à chaque fois qu'il y a une attaque qui est grave, où des gens sont frappés par les colons, ou attaqués, ou se font tirer dessus, il y a l'armée israélienne qui est à 2 mètres, qui est témoin, la police israélienne, et ils témoignent jamais, et ça change rien, en fait, donc non.
On le disait, la Cisjordanie est grignotée par la colonisation illégale au regard du droit international. Et dans ces avancées, il y a une technique qui est utilisée, dite de l'avant-poste, par les colons pour agrandir leur territoire. Par exemple, dans le village de Oum El Khayr, eh bien, c'est un jour un conteneur de 27 mètres cubes qui a été déposé dans le jardin communal. Que contient ce conteneur? À quoi sert-il?
En fait, c'est ça. En fait, il faut savoir que en Cisjordanie occupée, il y a ce qu'on appelle les colonies qui existent. Hamas Afariata, elles ont apparu dans les années 80. Il y a eu trois grosses colonies qui sont installées, qui maintenant sont immenses. Ça ressemble un peu à des quartiers un peu américains. Toutes les maisons se ressemblent. C'est construit d'une manière circulaire, en fait, tout le temps sur le haut des collines. Et donc, il y a ces colonies qui sont reconnues par les autorités israéliennes, mais pas par le droit international. Et ensuite, il y a ces avant-postes, en fait, qui sont posés. Au début, c'est toujours un mobilhome comme ça, un conteneur qui est installé. Et puis après, il y a de plus en plus de familles qui arrivent. Mais ces conteneurs, en fait, ces avant-postes, ils sont pas installés au hasard, en fait. C'est un peu à l'image de ce qui se passe avec eux. C'est qu'en fait, ils segmentent, en fait, toujours des situations géographiques en deux. Par exemple, à Oulmarer, le village d'Oulmarer, c'est vraiment l'exemple parfait en ce moment pour ce qui se passe en Cisjordanie occupée, c'est que le village est complètement assiégé. Il se retrouve coincé en fait entre une colonie, la colonie de Carmel qui date des années 80, qui est immense, et ils ont construit ce outpost, maintenant cet avant-poste, juste derrière l'école du village. Et en fait, le village palestinien se retrouve coincé entre deux colonies, et du coup, ce qui amène en fait le passage des colons quotidiens avec des armes d'une colonie à l'autre. Ils traversent le village palestinien quotidiennement en fait, et en fait, ils normalisent la présence en faisant ça.
Sur l'une de vos photos, on voit donc ce conteneur avec autour des tuyaux blancs qui ont été posés au sol, des tuyaux que les Palestiniens ne peuvent franchir sous peine de voir arriver des colons armés. C'est une sorte de frontière de facto, ces tuyaux ?
C'est ça, c'est un tuyau qui a été posé au sol pour marquer une sorte de frontière imaginaire. Et mais cette photo, elle a été prise en avril 2025. Il y avait sur la photo, on peut voir, il y a seulement un mobilhome. Et là, j'y suis retourné octobre, novembre, décembre. Et là, maintenant, il y en a 7 ou 8 de mobilhomes qui sont installés. Et il y a des poteaux électriques. Donc, en fait, ils sont reliés à l'électricité, à l'eau, grâce à la colonie de Carmel qui est juste à côté. Et à côté, vous avez le village de Oumerer, le village palestinien, où il y a de plus en plus de démolitions. Et qui n'ont pas accès à l'eau, qui n'ont pas accès à l'électricité. Enfin, ils ont accès à l'électricité grâce à certaines ONG qui leur fournissent des panneaux solaires.
Notamment ça, une ONG israélo-palestinienne qui s'appelle Comet et qui aide les villages effectivement à se connecter via des panneaux solaires, des pompes et des citernes. Mais ce que vous racontez aussi avec vos collègues, c'est que ce matériel-là, il est aussi la cible soit de destruction, soit de vol.
C'est ça. En fait, il y a plusieurs méthodes par les autorités israéliennes pour créer ce déplacement forcé des populations palestiniennes en dehors de la zone C, c'est les attaques de colons, premièrement, et puis les démolitions. Et en zone C, les démolitions, elles sont fréquentes et elles sont de crescendo, en fait, il y en a de plus en plus. Par exemple, en 2024, l'été, quand j'étais, le village Loumarer, ils ont détruit peut-être 7 ou 8 maisons en une journée. Et quand les gens reconstruisent des abris, ils détruisent les abris, ils reviennent la semaine d'après. Et du coup, ils leur détruisent aussi les tanks d'eau, les panneaux solaires. Tout ce qu'ils possèdent, ils leur détruisent.
À At Touwani, toujours dans la vallée de Massafer Yatta, vous racontez aussi ce jour d'avril l'arrivée de deux engins, de deux bulldozers dans le village venus raser plusieurs maisons. Il faut raconter la violence de la procédure. Quand les bulldozers arrivent, les habitants ne savent pas qui est visé, quelle maison va être détruite, ce qui crée une grande anxiété. Et quand le bulldozer se présente, les habitants ont moins de 10 minutes pour vider la maison de leurs affaires.
C'est ça, en fait, c'est quelque chose d'hyper violent déjà dans le processus où en fait les gens ne savent pas quand la démolition va avoir lieu. Les autorités arrivent, donnent aux familles un avis de démolition.
Qui se fonde sur quoi ?
Comme quoi, ça a été construit sur. À Massafriata, en fait, ils ont déclaré une partie de Massafriata comme zone militaire, zone de tir. Donc, ça veut dire que les familles palestiniennes n'ont pas le droit de vivre à l'intérieur de cette zone de tir aux militaires parce que c'est trop dangereux, c'est une zone militaire. Mais ce qui n'empêche pas, par contre, d'avoir des colonies qui se construisent à l'intérieur de cette zone militaire. Et du coup, donc, on leur donne ces avis de démolition. Et le problème, c'est que les gens ne savent pas si ça va être le lendemain ou dans une semaine, dans 6 mois ou quelques années. Et souvent, ça peut être dans une semaine, mais souvent, c'est quelques mois après, quelques années après. Et il y a comme le village de Khaled Taba, qui lui, en un an, je crois que 85% du village a été démoli. Les gens reconstruisent, mais ils redémolissent derrière. Et il y a une image, en avril-mai, quand j'étais avec mon collègue Louis Viteur en reportage là-bas, où il y avait cette petite fille qui est partie à l'école le matin à 8h, et quand elle est revenue, il n'y avait plus rien, il n'y avait que des ruines, et donc c'est hyper violent pour les familles, le processus de démolition, de ne pas savoir quand ça va tomber en fait.
Merci Nicolas Cortès. Vos derniers reportages en Cisjordanie, co-réalisés avec Louis Viteur, Fanny Léonore Crouzet et Inès Gilles, sont donc à retrouver sur les sites de Blast, de L'Écho et du journal Le Temps. Merci d'être venu dans le Retour de Terrain.
Avec plaisir.
صمتك كسر صوتي وصوت مدفون تحكي وبيحيك سكوتي وسكوتك مشحون بالبلد ديمقراطي سودا تغطي شمس النهار تغطي شمس النهار فكر في حالك شوي فكر بعيون الناس وقعد مع حالي شوي لنحل هم الأساس بالبلد الكذبة بيضاء فيها الكلام أسرار فيها الكلام ازرع بنفسك ياسمين غير هالجو المجنون ما تلعب دور الحزين ما تغمض هالعيون بهالبلد ما في بلد والناس بتولد بالانتحار والناس بتولد بالانتحار
Fel Balat est sorti en 2019. Le titre est signé du groupe de musique Mafar, un groupe originaire de la ville de Bethléem en Cisjordanie. Vous écoutez Culture Monde, seconde partie de notre émission Actu du vendredi, direction à présent l'Iran.
France Culture, Culture Monde, Mélanie Chalandon.
La foule était énorme. On avait beaucoup d'espoir. Petit à petit, on a vu les forces de sécurité arriver et vers 22-23 heures, le bain de sang a commencé. Ils tiraient à balles réelles avec des armes de guerre. Même si tu ne faisais rien, peu importe. Ils ont commencé à rafaler la foule. Nous, on était au dernier rang. On avait tellement peur alors qu'on n'était même pas armés, ni formés pour être dans une manifestation comme ça. Mon corps tremblait entièrement. J'étais tellement stressée. J'essayais de m'extraire de la foule. Après, j'ai entendu parler des morts.
Cette voix est celle d'une jeune Iranienne de 27 ans. Elle est étudiante dans une ville de province en Iran. Son visage et son nom resteront anonymes, tout comme celui du journaliste qui a recueilli son témoignage et qui signe pour Arte sous le pseudo Kajin Azadi, un reportage exceptionnel intitulé « 10 jours dans l'Iran qui résiste ». Malgré plusieurs semaines de coupures d'internet et des communications, le monde commence à prendre conscience de l'ampleur et de la brutalité de la répression qui s'est abattue sur les manifestants et qui se poursuit, arrestation, saisie, poursuite judiciaire, entrave à l'accès au corps des défunts. Dans ce régime qui ne recule devant rien pour sa survie, nous nous intéressons aujourd'hui à ceux qu'on appelle les gardiens de la révolution, cette milice d'État fondée en 1979 par l'ayatollah Khomeini pour conserver, je cite, les idéaux de la révolution. Comment exerce-t-elle son emprise sur l'État et la société, mais aussi sur l'économie iranienne? Nous en discutons avec nos invités. Armin Arefi, bonjour.
Bonjour.
Et bienvenue. Vous êtes grand reporter au Point, ancien correspondant à Téhéran. On vous doit un documentaire co-signé avec Julie Lera pour TV5 Monde, Les gardiens de la révolution, les maîtres de l'Iran. Il y avait un point d'interrogation, je crois. Non, il n'y avait pas de point d'interrogation, pardon. Et puis, Un printemps à Téhéran, la vraie vie en République islamique, c'est aux éditions Plon. Et nous sommes également en ligne avec Jonathan Piron. Bonjour.
Bonjour.
Et bienvenue également. Vous êtes historien, spécialiste de l'Iran et du Moyen-Orient, chercheur associé au groupe de recherche et d'information sur la paix et la sécurité basé à Bruxelles. Et nous sommes toujours, comme chaque vendredi, avec Marc Semaux, notre partenaire du journal Le Monde. Bonjour Marc.
Bonjour Mélanie.
Et on commence avec votre édito.
Alors oui, les Européens ont finalement inscrit les gardiens de la Révolution dans la liste des organisations terroristes de l'Union Européenne. Alors, comme le dit Kaja Kallas, l'Estonienne ministre des Affaires étrangères des 27, ils sont désormais, comme Daesh, Al-Qaïda ou le Hamas, et tout membre de l'organisation mettant le pied dans un territoire de l'Union peut être théoriquement arrêté. Les États-Unis l'avaient fait dès 2019, le Canada un peu plus tard, suivi par la Suède. Alors pourquoi nous avons-nous attendu si longtemps ? Formellement, il fallait qu'un tribunal des pays membres de l'Union condamne les Pasdaran comme tels, comme terroristes. C'est le cas, en fait, depuis 2023, après un jugement à Düsseldorf, après une attaque contre une synagogue, dont à Bochum, une petite ville de la Ruhr. En fait, les pays européens, dont la France, tenaient à conserver un canal diplomatique ouvert avec Téhéran, espérant une évolution du régime, surtout s'il y avait finalement un nouvel accord sur le nucléaire, et craignaient des rétorsions sur leurs ressortissants pris en otage par les mollahs. Après l'ampleur des massacres menés par le régime, une telle position n'était plus tenable. Le bilan de la répression des 8 et 9 janvier serait en effet de dizaines de milliers de morts. Jamais en Iran comme au Moyen-Orient, autant de civils ont été tués en aussi peu de temps. Cette répression a été menée notamment par les gardiens de la Révolution, à la fois bras armés du régime, maître d'œuvre de sa stratégie de déstabilisation régionale comme de ses programmes balistiques et nucléaires, et ils contrôlent, selon les estimations, entre 40 et 60% de l'économie. La décision européenne est un geste fort. Ses effets concrets risquent néanmoins de rester très limités, alors que le pays est déjà frappé depuis des années par des sanctions économiques massives des États-Unis, mais aussi à nouveau de l'ONU, en raison de sa volonté de poursuivre son programme nucléaire. Ces mesures visent donc déjà aussi les Pasdaran, vu leur poids économique, mais ce sont en même temps cet embargo qui permet aux Pasdaran de profiter à plein de son contournement. Le gel des avoirs et l'interdiction de visa contre une vingtaine de dignitaires dont le ministre de l'Intérieur ou le procureur général sont tout aussi symboliques dans les deux sens du terme. La question du quoi faire reste donc entière.
Merci beaucoup Marc Semaux. Armin Arifi, vous avez publié cette semaine dans Le Point le témoignage d'un homme, Ardalan, c'est un nom d'emprunt, qui a participé aux manifestations. Il a vu les tirs, il a perdu des amis, il est aujourd'hui sous le choc. Il vous fait part de ses problèmes d'hypertension, ses problèmes cardiaques. Est-ce qu'on peut supposer que l'état de cet homme est à l'image de celui des millions d'autres personnes aujourd'hui en Iran ?
Oui, je pense. D'ailleurs, lui-même, quand il se rend à l'hôpital pour y être soigné, après plusieurs jours d'hésitation, il se rend compte que la salle d'attente est pleine de personnes qui ne sont pas des blessés, des manifestants qui sont dans d'autres services, mais des personnes âgées comme lui d'une soixantaine d'années et qui sont complètement sous le choc, sous la sidération, en apprenant l'étendue des massacres sans précédent qui ont frappé les manifestants iraniens et même la population, parce que dans les victimes de la répression orchestrée, notamment par les gardiens de la Révolution, il y avait aussi des passants. D'ailleurs, c'est un terme que reconnaît aujourd'hui le régime, c'est-à-dire que pour la première fois, le régime parle quand même, nie pas le nombre, enfin qu'il y ait eu des victimes, même s'il les attribue à des agents terroristes orchestrés, je cite, par la CIA et le Mossad. Mais effectivement, pour revenir à Ardalan, il est sous le choc, il ne se sent pas bien. Les Iraniens, bon, ce n'est pas la première fois qu'ils manifestaient, mais jamais ils pensaient qu'une telle répression à l'arme de guerre, à l'arme lourde, à la mitraillette, se s'abattrait sur la population, un peu à l'image de ce qui s'est passé au début de la révolution d'ailleurs syrienne. Et aujourd'hui, c'est l'état de sidération, et dans cet état de choc, de sidération, les Iraniens appellent à l'aide, en tout cas ceux que j'ai pu avoir, les manifestants appellent à l'aide, et dans ce contexte-là, la décision de l'Union européenne suite à l'accord de la France qui bloquait jusqu'ici de placer les gardiens de la Révolution sur la liste des organisations terroristes européennes est vécue comme une sorte de soulagement. Parce que ça fait des années que beaucoup de manifestants, beaucoup d'Iraniens et beaucoup d'Iraniens de la diaspora, donc à l'intérieur du pays mais également à l'extérieur, le demandaient, mais que la France, ne souhaitant pas couper toute relation avec ce véritable État dans l'État que sont les gardiens de la Révolution, hésitait à le faire, d'autant qu'on a encore deux otages, Jacques Paris et Cécile Kohler, en Iran. Mais ce pas a été franchi. Ça a soulagé une partie de la population. Mais le désespoir est extrêmement fort. Et un nombre assez important, je ne saurais pas le quantifier, mais d'Iraniens aujourd'hui s'en remettent à Donald Trump et à la menace de frappe contre l'Iran, même si Donald Trump lui-même, il y a deux semaines, il a annoncé aux manifestants, alors que les manifestations étaient déjà achevées en Iran, réprimées, que l'aide était en route. L'aide n'est jamais venue et aujourd'hui, le président américain parle d'une pression extrêmement importante, de risque de frappe, de menace de frappe, mais pour un accord sur le nucléaire. Donc il n'est plus question des manifestants.
La pression américaine, on va y rester attentif et certainement y revenir dans les jours à venir en fonction de l'évolution de la situation. Jonathan Piron, est-ce que vous... C'est vrai que la question de savoir si cette répression est sans précédent, comme l'a dit Armin Arefi, c'est la question qu'on s'est tous posée à mesure que les informations revenaient et remontaient du terrain. Les chiffres sont encore incertains au sens où ils pourraient être plus élevés, mais je voudrais juste rappeler que Human Rights Activist New Agency parle de au moins 6000 morts, tout en enquêtant sur 17 000 autres possibles décès, et que d'autres sources médicales évoquent 30 000 morts, comme ce chirurgien que vous interrogez, Armin Arefi, dans le point. Jonathan Piron, vous partagez l'idée que c'est sans précédent depuis la fondation de la République islamique en 1979.
Oui, tout à fait. C'est inédit par l'ampleur des massacres. Il faut vraiment parler de massacres. Et aussi par la violence déployée, où, comme Armin Arefi l'a dit, on a vu des armes lourdes être utilisées directement contre la population. Dans les témoignages qui parviennent, les manifestants affirment que notamment les tirs étaient directement dirigés contre le thorax ou contre la tête. Donc l'intention est vraiment de tuer de manière indiscriminée. Et aussi, surtout ça... Ça continue puisqu'une grande partie de la population a peur en fait maintenant d'aller dans les hôpitaux. On sait aussi que les services de sécurité sont rentrés dans les hôpitaux, parfois même pour achever certains manifestants, mais aussi pour en enlever. Et il y a aussi ces images qui ont été partagées par les médias publics, qui ont montré les morgues, les corps, notamment en Karizak, où il y a vraiment ces monçons en fait de victimes. Et donc tout cela frappe en fait durablement les esprits. D'ailleurs, dans les témoignages qui nous arrivent maintenant de l'Iran, puisque les communications commencent à être petit à petit rétablies, donc on peut recommuniquer notamment par WhatsApp. Le terme qui revient beaucoup, c'est désespoir. Et une population qui est vraiment, en fait, dans cet état de sidération et de désespoir, et qui ne sait plus très bien, en fait, comment les choses peuvent évoluer autrement que par la violence. C'est d'ailleurs aussi ressenti physiquement, d'ailleurs, aujourd'hui, dans les quelques informations qui arrivent, notamment, on voit sur des groupes Telegram ou WhatsApp, par exemple, dans un quartier de Téhéran, dès qu'il y a un bruit, une détonation, les personnes qui sont sur le groupe se disent « Juste dans tel quartier, vous avez entendu ce bruit, est-ce que c'est quelque chose qui recommence ?» Et donc il y a vraiment cette peur en fait que le soulèvement reprenne avec encore la présence aussi des forces de sécurité dans la rue. Et on voit clairement ici en fait qu'il y a eu cette volonté de brutalisation du régime, avec aussi des questions qui se posent aujourd'hui sur ce qui était des rumeurs mais qui maintenant semblent se confirmer, de la présence aussi de milices étrangères qui seraient venues d'Irak ou d'Afghanistan pour soutenir aussi la répression. Et donc peut-être dans cette volonté aussi de la part du régime d'utiliser ces éléments étrangers pour ne pas qu'il y ait de défection justement de la part de ces services de répression et pour que ces forces étrangères en fait tirent vraiment dans le tas et massacrent la population sans état d'âme. Donc dans cette volonté clairement en fait du régime de ne laisser la porte ouverte à aucune possibilité de défection ni même de victoire en fait de ce mouvement de contestation qui est devenu en fait un soulèvement inédit dans l'histoire récente du pays.
Ils n'avaient pas les uniformes verts de la police, dit Ardalan dans ce témoignage toujours recueilli par vous, Armin Arefi, pour le journal Le Point. Justement, aujourd'hui, que sait-on précisément de l'identité de ceux qui ont orchestré la répression, Armin Arefi? Ce n'était pas la police d'État, c'était donc les Basidji.
Alors justement, ça change de ce qui s'est produit lors de la répression du mouvement Femmes, Vie, Liberté, qui avait fait environ 600 victimes à l'époque. C'était notamment la police anti-émeute qui par ailleurs a des liens avec les gardiens de la Révolution, qui était à pied d'œuvre, si je puis dire, pour tuer les manifestants, pour réprimer, pour disperser, avec utilisation d'armes, quels fusils de chasse, pour disperser les manifestations, puis dans certaines villes d'armes létales. Les gardiens de la Révolution à l'époque étaient restés en dehors. Et d'ailleurs, à l'époque, quelques jours après la mort de Mahsa Amini, on sentait justement qu'ils, en tout cas certains de leurs généraux dans la revue liée aux gardiens de la Révolution, essayaient de se distinguer de la réponse de la police des mœurs. Là, c'est tout à fait différent. Les premiers jours, ce qui était frappant, à partir notamment du 28 décembre 2025, alors que les revendications étaient au départ économiques, faut pas oublier, ça a commencé au bazar de Téhéran, poumon économique du pays, soutien traditionnel de la République islamique. Les commerçants du bazar ont fait grève, sont descendus dans la rue, et un grand nombre de classes sociales davantage défavorisées les ont accompagnés. Et les premiers jours, on a eu le sentiment que les forces de sécurité, les autorités iraniennes étaient dépassées par l'ampleur du mouvement et ne souhaitaient pas se confronter aux manifestants. On a des images extrêmement fortes, on se souvient des premiers jours où on a des manifestants à terre en signe de non-violence face à la police, notamment les forces de police anti-émeute armées jusqu'aux dents, mais on ne voit pas, en tout cas à Téhéran ou dans d'autres grandes villes, de véritables frictions et violences. La donne est différente dans des villes, on va dire, davantage périphériques, notamment à l'ouest du pays, où déjà on a des tirs létaux de la part de gardiens de la Révolution et de leurs supplétifs miliciens Basiji. La donne a totalement changé dans ces mêmes grandes villes après l'appel lancé par le prince héritier et fils du Shah du mercredi 7 janvier, où il appelle la population, les manifestants, à sortir le lendemain, donc pour le jeudi 8, à 20h le soir. C'était quand même la première fois, alors non, c'est pas la première fois que le prince héritier lançait un tel appel, mais c'est la première fois qu'il a été suivi, alors je ne dirais pas que tous les manifestants étaient complètement soutiens du prince héritier, mais que, en tout cas, ce prince héritier a paru peser dans les manifestations, dans l'ampleur. Donc simultanément, dans un grand nombre de villes, une centaine, les Iraniens sont sortis, ont lancé des slogans contre l'ayatollah Khamenei, le guide suprême, mais aussi en soutien, et ça c'est nouveau, du Shah, le père, du Shah, le grand-père, ou du fils du Shah, le fils. Et ce qui est très important...
Ouais, pardon, Armin Arifi, ouais. Cette dimension politique, ouais. Elle aurait changé la nature de la répression?
Le régime s'est rendu compte pour la première fois que, hormis la personne du guide qui était visée par les slogans depuis maintenant 17 ans, il y avait le nom de quelqu'un qui était scandé pour lesquels les manifestants étaient favorables. C'est-à-dire qu'il y avait une alternative qui était scandée, présentée dans les rues du pays et plus uniquement à l'étranger. Et ça, ça a changé la donne. Et puis force est de constater que... un grand nombre, des dizaines de milliers d'Iraniens, on parle de 1 million, 1 500 000 personnes à Téhéran sont sorties dans la rue. Moi, c'est des images que je n'avais pas vues depuis le mouvement vert de juin 2009. Et à l'époque, la manifestation était quelque peu autorisée parce qu'elle avait été lancée à l'appel de l'ancien opposant Mir Hossein Mousavi, un réformateur qui était extrêmement mécontent de l'élection, qu'il estimait, du résultat de l'élection, qu'il estimait donc favorable à, au président ultra-conservateur Mahmoud Ahmadinejad et qu'il estimait truqué. Après, il y avait eu beaucoup moins de manifestants. Là, on a eu des dizaines de milliers de personnes à Téhéran, jusqu'à globalement 1 million, 1 million 500 000. Et effectivement, c'est ce soir-là, quelques heures plus tard, que les gardiens de la Révolution, les miliciens Basiji, les volontaires, les petites mains du régime iranien qui sont n'ont pas le grade et le niveau de préparation militaire des gardiens de la Révolution sont entrés en action avec des armes lourdes, des tirs indiscriminés comme l'a dit Jonathan Piron, et une volonté de disperser mais aussi de montrer l'exemple. C'est ainsi qu'on a quand même, et ça prouve l'effroi, en tout cas ça explique l'effroi de la population, une volonté de tirer dans la tête, dans le corps, dans les parties génitales, dans les yeux, une volonté d'achever. Moi, j'ai encore eu un témoignage de médecin hier matin qui me racontait comment le fils d'un de ses collègues a été traîné dans une rue devant sa femme et ses enfants et qu'il a été visé par une balle au niveau des parties génitales devant sa famille pour montrer un exemple, pour faire un exemple. Donc clairement, sur ordre du guide suprême, dès d'ailleurs le 3 janvier 2026, celui-ci a annoncé qu'il fallait, je cite, « ramasser les manifestants », distinguant d'ailleurs à ce sujet les manifestants anti-régime qui sont vite devenus majoritaires et ce qu'il appelle les revendications légitimes des Bazaris, pour lequel d'ailleurs le gouvernement essaie de faire des gestes, mais il n'est pas en mesure de le faire vu l'état de l'économie. Et donc, ce sont les jeudis 8, vendredi 9, samedi 10 et dimanche 11, les gardiens de la Révolution sur leur pick-up caractéristique avec leurs armes type Douchka, armes lourdes normalement utilisées sur les terrains de guerre régionaux, notamment en Syrie, qui ont été à la manœuvre pour le bilan de qu'on connaît aujourd'hui. On parle de 30 000, à minima de 30 000 victimes aujourd'hui en Iran.
Marc Semo.
Oui, alors pour élargir un peu la focale, Donald Trump maintenant fait une pression maximum, menace de frappe. Et en même temps, il dit, moi je veux éviter la guerre, et propose des négociations sur le nucléaire, le balistique, la déstabilisation régionale, et même, à la fin, la reconnaissance d'Israël, ce qui est évidemment, à la fois concerne ceux qui sont les axes portants les plus essentiels des gardiens de la Révolution. Il n'y a rien de possible pour une telle négociation.
Je vais donner la parole à Jonathan Piron sur cette question, puis après on revient en plateau. Jonathan Piron.
Ce sont en effet les questions qui se posent aujourd'hui. Ce sont les conditions qui sont imposées par l'administration Trump pour une éventuelle reprise des négociations avec l'Iran. Alors c'est vrai qu'ici, il y a quelques jours, on a vu que Donald Trump ne venait plus avec les menaces liées à la répression de la population, mais revenait avec la question du nucléaire. Et on connaissait notamment les éléments que vous avez cités, qui sont en effet une ligne rouge pour le cœur du système, qui ne peut pas revenir en fait sur la question des missiles balistiques ou de son hégémonie régionale, enfin qui n'existe plus aujourd'hui, mais il y a toujours aussi cette volonté d'éloigner son périmètre de sécurité loin de ses frontières. Mais il semblerait encore une fois, il y a quelques heures, que l'administration Trump revenait plutôt avec l'idée de pas d'armes nucléaires, ce qui rouvre donc peut-être en fait la possibilité d'une négociation sur l'enrichissement. Mais sur la question du nucléaire, il faut quand même aussi se souvenir que nous sommes dans cette situation parce que durant la première administration de Trump, en fait, il y a eu ce retrait décidé justement par les États-Unis de l'accord sur le nucléaire qui contraignait en fait l'Iran dans son enrichissement, dans le stock d'uranium enrichi, également avec une présence des inspecteurs de l'AIEA. Et donc, on avait justement un programme, un accord qui était assez strict, qui permettait en fait de surveiller le programme nucléaire iranien. Ici, en fait, on est dans une situation où il y a un taux d'enrichissement inédit qui a été atteint et qui semblerait-il a dépassé les 60%. Or, on est vraiment très près de la possibilité technique d'avoir ces fameux 90% qui permettent en fait le développement d'une bombe. Et aussi dans la situation où maintenant on ne sait plus très bien ce qu'il est arrivé en fait de ce stock hautement enrichi qui a été déplacé l'année dernière avec les frappes israélo-américaines qui ont été réalisées justement sur les sites iraniens. On est aussi dans la situation aujourd'hui où il y a eu des tentatives de relance des négociations l'année dernière, mais qui ont échoué parce qu'en effet, les deux acteurs, que ce soit Téhéran et Washington, n'ont plus du tout confiance l'un par rapport à l'autre. Et donc, on est dans cette situation où aujourd'hui, on voit qu'il y a quand même cette volonté des États-Unis de relancer les négociations, mais où toute une série d'obstacles, en fait, voire même de verrous très puissants, sont présents. Alors, est-ce que ça laisse quand même une porte de sortie pour que le régime tente quand même, en fait, de relancer des négociations pour aller éloigner la menace sans nécessairement vouloir aller à son aboutissement, ou est-ce qu'il y a quand même, encore une fois, des possibilités de négociation sur certains aspects? Ce sont les questions qui se posent aujourd'hui. Mais en tout cas, tant qu'il n'y a pas de confiance entre les acteurs, on se retrouve finalement dans la même situation que l'année dernière, avec des accords qui patinent, qui durent en longueur, et dans lequel, en fait, la menace d'une intervention commence à se rapprocher de plus en plus.
Des négociations dans lesquelles le corps des gardiens de la Révolution jouera forcément un rôle important en tant que pilier de la République islamique d'Iran. Je voudrais qu'on revienne sur leur rôle et leur emprise dans la société et sur l'État. Armin Arefi parlait de leur responsabilité directe et avérée dans la répression. Aujourd'hui, c'est à l'ayatollah Khamenei, le guide suprême, que les gardiens rendent des comptes, et à lui seulement, Armin Arefi.
Alors oui, effectivement, sur le papier, les gardiens de la Révolution rendent directement compte au guide suprême, qui est le commandant en chef des forces armées iraniennes. Aujourd'hui, depuis notamment les premiers jours, on va dire une semaine après le début des manifestations, ces gardiens-là ont appliqué à la lettre les directives, l'ordre de permis de tuer qui a été donné par le guide suprême. Les gardiens de la Révolution, comme vous l'avez dit, et comme on l'a dit tout à l'heure, sont une grande partie du problème, sont les acteurs principaux de la répression. Ce n'est pas nouveau, ils l'ont déjà été en 2019, lors des manifestations déjà contre la vie chère, où en une semaine déjà, on avait eu un blackout d'Internet et que 1500 personnes avaient été tuées par les mêmes gardiens. Il l'était déjà 10 ans plus tôt, en 2009, au moment du mouvement vert de contestation de la réélection de Mahmoud Ahmadinejad, où déjà, ils avaient tué, à l'époque, 150 manifestants dans la rue. Maintenant, ce qui est très très important, c'est que les gardiens de la Révolution, formés au départ par l'ayatollah Khomeini, en tout cas avec l'accord de l'ayatollah Khomeini, qui se sont aguerris sur le terrain de la guerre Iran-Irak, ont peu à peu supplanté l'armée régulière iranienne, dont la mission reste, l'armée pour l'armée régulière, de protéger les frontières du pays. Pour les gardiens de la Révolution, c'est différent. C'est une armée idéologique, c'est une armée surpuissante, qui, dont le but, en tout cas officiel, est de protéger le guide suprême, mais également l'idéologie de la République islamique, le régime iranien, et qui, à la faveur de la fin de la guerre, s'est étendue et s'est emparée de pans de l'économie iranienne, le BTP, la défense, les affaires, l'immobilier, les assurances, partout. Et là-dessus, ils ont bénéficié de l'accord du guide suprême, l'ayatollah Khamenei, qui a resserré l'étau empêchant autour du régime, empêchant la moindre ouverture réformatrice, et qui a poussé, à la fin des années 1990, à ce que les gardiens entrent également en politique, en ayant des anciens membres des gardiens de la Révolution qui s'emparent de municipalités, qui ont un rôle dans la répression locale, et qui deviennent petit à petit un état dans l'état. Et au fur et à mesure des divers, par exemple, présidents qui vont être élus en Iran, notamment Mahmoud Ahmadinejad, et profitant de l'impact des sanctions qui vont internationales sur le nucléaire, qui vont empêcher les compagnies, les entreprises internationales de venir s'installer en Iran, ils vont profiter de ce monopole. Donc oui, les gardiens de la Révolution vont surfer sur le contournement des sanctions et n'auront aucun intérêt, par exemple en 2015, que le pays s'ouvre à la faveur de l'accord sur le nucléaire iranien. Et donc, quand je dis qu'ils font partie du problème, oui, mais ils font aussi partie de la solution. Pourquoi ? Parce que aujourd'hui, en dépit du bain de sang terrible qui s'est écrasé sur la population iranienne, les gardiens n'ont pas été victimes, en tout cas, de défection. Les gardiens restent la principale force armée en Iran, présents à l'extérieur du pays, même s'ils ont été affaiblis, mais surtout implacables à l'intérieur du pays. Et donc, sans force d'opposition armée au sol, que ce soit une rébellion qui fait partie du peuple ou des soldats américains, eh ben, ils n'ont aucun souci, les gardiens, à se faire pour leur survie. Et donc, c'est la raison pour laquelle, peut-être, et il y a des informations selon lesquelles l'administration américaine aurait entamé des discussions avec certains généraux des gardiens de la Révolution pour peut-être tenter de faire peut-être changer de cap la République islamique et d'essayer de créer un fossé entre les gardiens de la Révolution, qui restent les acteurs incontournables de ce régime, et le guide suprême, qui aujourd'hui a placé son pays, et surtout son régime, dans une position intenable, selon laquelle, de toute façon, il n'y aura pas de marche arrière et de chemin retour vis-à-vis de sa population, qui haït le guide suprême, mais aussi les gardiens de la Révolution.
Jonathan Piron, est-ce qu'il y a aujourd'hui des éléments qui pourraient laisser entrevoir des dissensions au sein de l'organisation du corps des gardiens de la Révolution, peut-être des désaccords sur l'usage de cette violence? Est-ce que, puisque certains espèrent que, puisqu'ils ne lâcheront pas le pouvoir, c'est leur survie qui est en jeu, qu'il puisse y avoir des dissensions internes qui les affaiblissent? Est-ce qu'on a des éléments qui nous permettent de laisser penser ou pas du tout?
Alors, à ce stade, concernant le soulèvement qui vient d'avoir lieu, il n'y a pas encore d'informations publiques ou de déclarations qui ont montré ces dissensions. Durant le mouvement Femmes, Vie, Liberté de 2022, on avait vu quelques jours ou quelques semaines après la mort de Mahsadjina Amini, qu'il y a eu quelques critiques qui avaient été émises, notamment par des officiers subalternes des gardiens de la Révolution, et qui notamment critiquaient la répression et qui appelaient à une forme de dialogue. Ici, ça n'a pas du tout été le cas. Et même, on a vu aussi, dans le pouvoir politique, le président de la République étant un réformateur, suivre également la même logique, la même doctrine, en fait, du noyau dur qui divisait les manifestants en deux, avec les manifestants légitimes et ceux qu'il fallait mater. Et donc, il y a quand même une cohésion qui s'est maintenue dans le cœur du système. Et d'ailleurs, on a vu aussi le chef d'état-major de l'armée régulière, où on pensait que les dissensions, les défections pouvaient peut-être plus facilement arriver du côté de l'armée régulière, suivre également cette même logique. Néanmoins, ça ne veut pas dire que le corps des gardiens de la Révolution est une structure homogène. Il faut justement la comprendre comme étant un conglomérat, en fait, de différents départements qui ont chacun aussi leur propre agenda, notamment sur la question économique, mais aussi politique. Ils jouent aussi un rôle sur le côté social. C'est aussi une organisation qui a des départements qui sont en charge de la culture et de la propagande. Et donc, ils ont tous cette loyauté par rapport au régime clérical, au régime du Velayat e Fakhri, mais aussi à l'égard de Khamenei, dont ils dépendent, mais dont Khamenei également dépend de la loyauté des gardiens de la Révolution. Mais il y a quand même ces différents départements qui parfois entrent en concurrence les uns par rapport aux autres. Alors, ils cherchent aussi à jouer un rôle politique, on l'a vu notamment avec Mahmoud Ahmadinejad par le passé, l'ancien maire de Téhéran, Khalil Baf, qui aujourd'hui est à la tête du Parlement. Mais il y a aussi eu d'autres représentants des gardiens de la Révolution qui ont tenté de faire candidature à une élection présidentielle, notamment en 2021. Je pense par exemple à Saïd Mohamed, et en fait, qui n'a pas été soutenu par le corps des gardiens. Et donc, on voit qu'il y a justement parfois cette différence de vue. Il faut aussi comprendre, c'est le dernier élément, qu'il y a des différences générationnelles. Alors, on a parlé évidemment du rôle central que les vétérans ont joué dans la direction politique des gardiens de la Révolution, les vétérans de la guerre Iran-Irak qui ont été formés sur ce terrain, qui aussi sont connus, qui ont aussi développé une forme de fraternité, et aussi de sentiment national qui doit répondre à l'agression venant de l'étranger. Et on a vu en fait d'autres générations venir, celles dans les années 90, sur des années 2000, qui n'ont pas connu la guerre Iran-Irak, mais qui ont connu la reconstruction et qui se sont notamment alors lancées dans le développement de toute série de départements. Et puis ceux alors de la troisième génération qui ont fait leurs armes dans la guerre en Syrie et qui eux en fait ont justement appris des techniques de répression dans le cadre d'un conflit civil, avec également cette image idéologique dont parlait Armin Arefi, qui a été poussée très loin, notamment dans cette volonté de défendre certains lieux chiites importants, comme la mosquée Zainab à Damas, et aussi dans l'idée aussi que la population, à un moment, pouvait se dresser contre le régime, et que donc la défense du régime pouvait parfois se réaliser contre sa propre population. Et on sait qu'il y a parfois des dissensions à l'intérieur du corps des gardiens, justement, entre ces générations qui ne se comprennent pas, et avec cette nouvelle génération formée durant le conflit en Syrie, qui n'est pas encore aux manettes pour le moment, puisqu'on voit que ce sont toujours des vétérans qui contrôlent le corps des gardiens, comme notamment Mohamed Pakpour, qui a succédé l'année dernière à Salami, mais qui a cette vision, donc cette nouvelle génération ultranationaliste, prêt finalement aussi à se défendre contre la propre population iranienne, en fait, pour défendre non pas l'intérêt de l'État, l'intérêt du pays, mais plutôt l'intérêt du régime, et donc avec tous les dangers, en fait, de brutalisation et de répression qu'on a rencontrés, justement, ici, durant ce mois de janvier.
Marc Semo.
Non mais alors juste sur ce point, parce que de fait c'est un scénario qu'on évoque depuis longtemps, la montée en puissance d'une aile plus nationaliste et moins religieuse, et d'une certaine façon, n'est-ce pas à ça aussi que faisait allusion Marco Rubio, donc le secrétaire d'État américain, déposant devant le Congrès, disant « on espère qu'au Venezuela, ce qu'il disait en substance, arriver à faire en sorte qu'il y ait des bouts du régime avec lesquels on puisse négocier ».
Objectivement, je pense que ce serait la solution la plus simple, sur le court terme en tout cas, c'est-à-dire que, encore une fois, il n'y a pas d'intention américaine d'envoyer des soldats américains sur le sol iranien, ça serait un bourbier encore plus important qu'en Irak, et aucun autre pays ne le souhaite. Il n'y a pas d'opposition armée conséquente en Iran, si ce n'est à la périphérie des groupes kurdes armés ou baloutches dans le sud-est du pays, mais qui ne sont pas en mesure de renverser le régime. On entend au sein de la population et des manifestants volonté face au massacre de se faire aider par des armes de l'Occident, sauf qu'on a en tête bien sûr ce qui s'est passé en Syrie et le prolongement et même une situation de guerre civile qui a duré pendant longtemps. Et donc, aujourd'hui, et c'est très, très intéressant d'avoir ces propos de la part de Marco Rubio, qui est quand même quelqu'un au départ assez idéologiquement contre la République islamique, dire qu'ils espèrent effectivement des dissensions au sein du régime. Et à vrai dire, sur le court terme, s'il y a une volonté véritable de Donald Trump de provoquer un changement, non pas de régime, mais au sein du régime, il faut qu'il réussisse à convaincre en tout cas une partie des corps armés, pas forcément l'armée qui n'est plus ce qu'elle était et qui est totalement par ailleurs inféodéo-guide, dont la direction est complètement inféodéo-guide, mais les gardiens de la Révolution. Voilà pourquoi des discussions sont certainement en cours pour pousser ou mettre de côté ou en tout cas tenter d'isoler le guide suprême qui est quand même, comme je le disais tout à l'heure, le principal responsable du bain de sang auquel on a assisté, et donc de faire miroiter l'idée d'un véritable deal, d'un great bargain entre l'administration Trump qui veut avant tout non pas aider les manifestations, ça c'était Trump au départ et visiblement il a tweeté trop vite, mais régler la question nucléaire, régler la question régionale et, pourquoi pas, réinvestir massivement auprès de l'économie iranienne. Maintenant, la question qui se pose, c'est est-ce que les gardiens de la Révolution, pour l'instant, totalement et organiquement, totalement inféodéoguides, seraient prêts à lâcher l'ayatollah Khamenei, vieillissant, 86 ans, malade, qui n'a pas forcément toute sa tête, pour une république peut-être moins islamiste, mais beaucoup plus nationaliste et militaire, c'est une possibilité. Hormis cela, tout autre scénario paraît aujourd'hui, on va dire, hasardeux.
Vous écoutez Culture Monde. Comme de nombreuses émissions de France Culture aujourd'hui dans le cadre d'une journée spéciale, nous parlons de l'Iran après la terrible répression qui s'est abattue sur les manifestants. Armin Arefi et Jonathan Piron sont nos invités. Il nous reste quelques instants pour parler du dessin de presse, comme chaque vendredi, en partenariat avec Cartooning for Peace. Et ce dessin aujourd'hui est signé, comme la semaine dernière, par Mana Neyestani, un dessinateur iranien aujourd'hui réfugié en France. On y voit un homme perdu dans un labyrinthe, dans sa main une lanterne, sur son visage des perles de sueur ou de larmes, à moins que ce ne soit les deux. Autour de lui, des sacs mortuaires empilés les uns sur les autres forment des murs entre lesquels il avance. Il cherche la sortie de ce labyrinthe morbide et bien qu'il ne puisse la voir, cette sortie existe. Un horizon que Mana Neyestani a dessiné sous la forme d'un paisible coucher de soleil et d'une nature verdoyante. Un dessin à découvrir sur le compte Blue Sky de l'émission sur la page internet de Culture Monde. Une réaction peut-être de nos invités, Jonathan Piron, à ce dessin.
C'est un dessin poignant, beaucoup d'émotions, on voit aussi tout le désespoir, mais l'espoir qui est derrière. Et en fait, quand j'ai vu le dessin, la première réflexion qui m'est venue, c'est une citation du philosophe allemand Walter Benjamin, qui disait « C'est seulement à cause de ceux qui sont sans espoir que l'espoir est donné ». Et donc on voit ici justement à travers ce désespoir qui aujourd'hui règne en Iran, qu'il y a quand même toujours l'espoir d'un changement, l'espoir d'un avenir meilleur, auquel la population a légitimement droit. Et donc même si le soulèvement a été réprimé durement, même s'il y a pour le moment cet abattement, il y a quand même, on le voit ici dans certains groupes qui parviennent à reprendre contact, cette envie de continuer en fait à se dresser. Il y a déjà des appels aussi à de nouvelles coalitions, des informations sur les personnes qui sont détenues. Et donc on voit que cette volonté en fait de la part de la population iranienne de ne pas se laisser faire, de se dresser contre l'arbitraire est toujours présente. Et donc la question n'est pas finalement si il y aura d'autres soulèvements en Iran, mais plutôt quand.
Armin Arefi, je vous laisse réagir également à ce dessin.
C'est un dessin qui fait quand même assez mal et qui résume, pour autant, je pense, le sentiment aujourd'hui de beaucoup d'Iraniens à l'intérieur de l'Iran, c'est que ce n'est pas une surprise que le régime soit capable d'une telle répression, mais ça fait extrêmement mal vu cette ampleur de mort jamais vue. Moi, quand je discute avec pas mal d'Iraniens qui ont manifesté ou qui n'ont pas manifesté, ce qu'ils me disent, c'est qu'aujourd'hui, l'état de sidération et de désespoir est tel que pour eux, le salut, pour ces personnes-là, je ne dis pas tous les Iraniens, mais pour une partie non négligeable des Iraniens, le salut ne peut venir que de l'étranger. Pour atteindre justement cette plaine ensoleillée avec des animaux et des arbres verdoyants, ça ne peut venir que de l'étranger. Et pour la première fois, on a malgré tout un président américain qui menace la République islamique en raison de la répression des manifestants. Et en gros, terminer, une dernière phrase qui est dite, parce qu'ils ne se font aucune illusion sur la volonté de Donald Trump, mais ce qu'ils disent, c'est « maudit la République islamique pour avoir contraint aujourd'hui son peuple » d'attendre avec espoir une intervention du grand Satan américain.
Merci Armin Arefi, merci Jonathan Piron. Je renvoie notamment vers vos articles, Armin Arefi, publiés dans le journal Le Point. Vous suivez chaque jour la situation en Iran, et à votre ouvrage Un printemps à Téhéran, la vraie vie en République islamique, paru aux éditions Plomb. Jonathan Piron peut retrouver également vos articles de recherche facilement sur Internet. Merci beaucoup Marc Sémon. On se retrouve la semaine prochaine. Lundi, c'est Julie Gacon que vous retrouvez pour une série consacrée au peuple kurde face aux États en Syrie, en Irak, en Iran et en Turquie. Nous essaierons de comprendre comment les forces politiques et militaires kurdes luttent pour leur autonomie ou leurs droits face à des États avec lesquels ils sont en conflit. Et la journée spéciale consacrée à l'Iran se poursuit sur France Culture. Vous retrouverez notamment Les Pieds sur Terre, mais aussi Le Point Culture de Marie Sorbier, ou encore le Book Club et La Fabrique de l'Information. Et dans un instant, c'est les Midi de Culture.